Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et Aînés Solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et Aînés Solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Et bienvenue au deuxième épisode de Tête de Hockey. Mon nom est Félix Duchesne et je suis en compagnie de mon ami
Raphaël Côté-Rioux.
Et oui, on est là pour une autre émission de Tête de Hockey. Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, autant de mon côté avec les Canadiens de Montréal et de ton côté aussi avec les Devils du New Jersey. On approche tranquillement, pas vite, la pause du match des étoiles, the All-Star Game. On voit qu'il y a des changements là qui sont en train de s'orchestrer. On parle beaucoup d'échanges. On va finalement faire la liste des blessés aussi du côté du Canadien. On va vous parler de la stratégie du tank qu'on vous a un peu parlé la semaine dernière. Mais oui, re-bienvenue à ce deuxième épisode de Tête de Hockey. Ça va bien cette semaine, Raphaël?
Oui, ça va super bien.
Et t'as été chanceux cet après-midi. Les Devils ont joué parce que, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, comme on expliquait la semaine dernière dans notre émission de présentation, on va un peu parler beaucoup de hockey, mais surtout sous l'angle de deux équipes, nos équipes favorites. Moi, ce sera le Canadien de Montréal et Raphaël, lui, défendra les couleurs du New Jersey avec ses chers diables rouges. Mais on veut aussi parler des vrais diables rouges, finalement. Les Remparts de Québec, si vous l'écoutiez cet après-midi, les Remparts ont remporté un deuxième match de suite contre l'Océanique de Rimouski. Ils ont gagné 5-2, dernier match à Rimouski. Et là, aujourd'hui, c'était à Québec, aux Andes-de-Tron. Ils ont encore gagné 5-2. Il y a eu des buts de Davis Cooper, Elliott Lavoie, Théo Rochette avec deux buts et Pierre-Olivier Roy qui ont complété la marque qui, encore une fois, je le répète, ça s'est terminé 5-2. Patrick Roy aussi a eu un hommage en début de partie. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les journaux dernièrement, mais il allait célébrer sa 50e victoire comme coach dans la Ligue junior majeure du Québec.
500e.
Qu'est-ce que j'ai dit?
50e.
C'est beaucoup plus que 50 victoires, c'est 500. Et c'est aussi on pourrait dire un genre de pré-hommage parce que beaucoup prédisent que ce sera sa dernière saison. Je rappelle que les Remparts, avec 44 matchs, ont 35 victoires. C'est pas rien. Ils ont 6 défaites et 4 défaites en surtemps. Ça les place au tout premier rang de la LHJMQ. Et j'irais même jusqu'à dire que ceux qui sont en deuxième, c'est les Moussets d'Halifax avec 67 points. Donc, ils ont un bon petit coussin d'environ, je fais un calcul rapide, de 6 points. C'est 3 victoires quand même bien campées du côté de Québec.
En effet, ça s'annonce bien pour les séries, puis ça s'annonce bien potentiellement pour la Coupe Memorial.
Oui.
Peut-être, on l'espère, pour les Remparts cette année, la Coupe Memorial.
L'an passé, pour ceux qui se rappellent, bien évidemment, il y a eu une défaite crève-cœur face aux Cataractes de Shawinigan. On a un peu trouvé ça dur du côté des hommes de Patrick Roy. Puis Patrick Roy, en soi aussi, lui, trouvait que c'était quand même difficile de prendre cette défaite-là. Mais on va maintenant entamer les prochaines actualités, si tu le veux bien, Raphaël. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés d'annoncer du côté des Canadiens de Montréal cette semaine. Ça a été un peu difficile à prendre pour certains, mais pour d'autres, ça a été de bonne augure parce que ben ça leur permet un peu de mettre les chances de leur côté pour obtenir le meilleur choix au prochain repêchage. Je laisserai commencer finalement avec la liste qu'on a de joueurs qui, pour certains, vont devoir s'absenter pour le reste de la saison, mais pour d'autres, ce sera pour que quelques semaines. Tu peux commencer.
Absolument. On a quelques joueurs assez importants. Là, on parle de Juraj Slafkovský.
Le
premier choix repêchage l'année dernière pour le Canadien. L'annonce a sorti cette semaine que Juraj serait blessé pour les trois prochains mois. Serait sur la liste des blessés pour les trois prochains mois.
C'est un peu crève-cœur d'être blessé à sa première année.
Absolument. Si on regarde un petit peu le bon côté des choses, c'est une blessure qui ne requiert pas de chirurgie. Donc okay. Ça, c'est toujours... un bon signe. Mm-hmm. C'est toujours mieux pour le développement par la suite.
Ouais.
Plusieurs se posent des questions par rapport à Slafkovský. Est-ce qu'il a été trop poussé? Est-ce qu'il était à sa place cette année dans la Ligue nationale? Est-ce qu'il aurait dû jouer soit en Finlande ou jouer avec Laval dans la Ligue américaine? C'est des questions qui se posent tant qu'à moi.
Il aurait joué en Finlande plus qu'en... Lui, c'est un Slovaque. Il aurait joué en Finlande parce que c'est une bonne ligue de développement?
Ben, en fait, Slafkovský s'est fait repêcher de la Finlande.
OK.
Il jouait en Finlande son année de repêchage. Mm-hmm. Donc, simplement retourné avec son équipe là-bas, ouais. Qui était TPS, si je me trompe pas. Mm-hmm. Puis, mais... Encore plus simple que ça, Slafkovský aurait pu jouer avec Laval là, dans la Ligue américaine. Je pense que c'est une question qui se vaut, bien honnêtement.
Là, trois mois, ça veut dire que ce sera donc en fin mars, peut-être début avril qu'on va exact. Pouvoir le voir, peut-être même mi-avril. Ça, c'est pas mal la fin de la saison. Est-ce que mm-hmm. pour toi, tu le vois compléter quelques matchs soit à Montréal ou à Laval?
Peut-être. Habituellement, avec les joueurs qui sont des fois des jeunes joueurs qui sont sortis de l'alignement pendant un bon bout de temps,
ouais.
Des fois, on préfère les envoyer dans la Ligue américaine. Question qui se réhabitue, on appelle ça un reassignment si on veut. Là.
Shane Wright qui est revenu du championnat junior, qui s'est fait assigner à l'équipe.
Une réhabilitation, si on veut. Ouais. Peut-être que le CH va décider de le faire jouer avec l'équipe pour les deux dernières semaines de la saison. C'est à suivre. Mais je pense vraiment que c'est à voir de ne pas trop vouloir forcer un joueur à performer dans un niveau où qui n'est pas nécessairement à sa place.
Ouais.
C'est des questions que les dirigeants des Canadiens auront à se poser, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça.
Ouais, on va voir qu'est-ce qui va arriver à notre cher Slaf national. On va passer maintenant à Jake Evans, un autre joueur qui est blessé, lui aussi au genou gauche. C'est pour 8 à 10 semaines, donc lui, sa saison est complètement terminée. Il va peut-être jouer au golf cet été, mais on ne sait pas. On verra bien. Jake Evans qui, moi, je pense que c'est quand même une bonne carte pour échanger. Mais là, échanger un joueur blessé, c'est tout le temps un peu compliqué. Donc, on verra peut-être un échange l'an prochain. Je sais pas. Je le vois pas vraiment dans la reconstruction du CH, toi. T'en penses quoi?
Moi, Jake Evans, je trouve que c'est un joueur assez intéressant.
Ouais.
Je pense que c'est un joueur qui peut jouer dans le milieu de l'alignement assez facilement. Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui fait vraiment peser la balance d'un côté ou de l'autre pour le CH. Donc, ça dépend vraiment s'il y a une équipe qui a des besoins dans son bottom six, si on veut,
ouais.
Ou au milieu de son alignement, je pense que ça peut être une option intéressante, mais c'est pas quelqu'un, je crois, qui va manquer tant que ça au CH.
Hmm.
Comparativement à notre cher Cole Caulfield,
oui.
Qui l'annonce est sortie cette semaine, qu'il manquerait le restant de la saison, en fait, qui a jamais vraiment été 100% cette saison avec le Canadien. Donc, c'est une blessure assez importante, un joueur assez important. Je dirais c'est la source principale de but pour les Canadiens
ouais.
Cette saison. Il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont contents, ça a des implications sur le tank. Comme on dit, ça va aider le rang au repêchage des Canadiens, c'est certain.
Bien, ça a été une grosse annonce quand même samedi matin quand c'est sorti dans les médias que la saison de Cole Caulfield est terminée. Comme tu l'as dit, il y en a qui trouvent que c'est une bonne raison d'encore plus mettre des joueurs, amateurs ou remplacer des joueurs des Canadiens par le joueur des Rockets pour finalement se donner plus de chance. On va vous en parler un peu plus en détail plus tard dans l'émission. Moi, je voulais parler, oui, de Caulfield parce que il s'est pas fait beaucoup frapper cette saison, donc on peut pas vraiment associer une cause à cette blessure-là. Quoique, le 12 décembre dernier à Montréal, il y a eu un contact avec Trevor Lewis mm-hmm. des Flames de Calgary. C'est pas mal la seule fois où il a reçu un coup, il a eu du mal à se relever. Donc peut-être que c'est ce contact-là qui a commencé finalement ou qui a aggravé la blessure.
Absolument. La réalité, c'est que les joueurs de plus petit gabarit, comme ouais. Cole Caulfield, c'est des joueurs qu'il faut qu'ils s'habituent à se mettre dans des positions qui vont les avantager pour pas se faire frapper, pour pas se faire blesser. Moi, ouais. je l'ai vécu avec Jack Hughes au New Jersey, ses deux premières saisons. Il a mis beaucoup de poids dans les dernières années, mais ouais. la première saison, quand il est arrivé dans la Ligue nationale, il était extrêmement petit. Le talent est là, les mains sont là, la vision est là, le IQ est là. Mais la force physique l'est pas. Donc, tu sais, ça prend pas grand-chose pour qu'un joueur se positionne mal dans le coin, mm-hmm. se fasse frapper.
Exactement.
Ça blesse.
C'est le positionnement qui est Exactement. Important. Le but, c'est de pas se rendre dans une situation où tu vas devoir éviter un contact. C'est de juste te positionner pour toujours être aux aguets, comme
Exactement.
On dit.
Exactement. Puis, on l'a vu beaucoup avec des petits joueurs. T'sais, on pense à Patrick Kane, exemple. Ouais. C'est un joueur qui s'est pas beaucoup blessé dans sa carrière, mais c'est pas un gros joueur. Mm. C'est un joueur de talent. Faut juste apprendre. Ça fait partie de l'apprentissage pour ce genre de joueur-là. Puis Caulfield, c'est un joueur extrêmement intelligent, donc je suis pas vraiment inquiet pour lui, bien honnêtement.
On parle finalement d'une opération à une épaule qui va durer plusieurs semaines pour sa rémission. Il va revenir cet été, donc c'est vraiment pour la saison prochaine qu'on veut le garder tout frais. Ça va être un coup quand même dur pour le moral de l'équipe parce que ben, pour ceux qui suivent le CH ou qui le voient sur les médias sociaux, il est toujours souriant, il est très optimiste dans le vestiaire. Il est très apprécié. Martin Saint-Louis qui disait tu perds Cole, puis la chose la plus importante que Cole y amène, qu'il faut remplacer, c'est pas ses buts, c'est son enthousiasme. Quoi de mieux qu'une quote de Martin Saint-Louis? Sinon, il y a David Savard qui, même s'il n'y a pas de C ou de A, il n'y a pas de rôle de leader, c'est comme un leader dans l'ombre.
C'est un vétéran.
Voilà, David Savard qui a dit Cole Caulfield, il y a un impact dans la chambre, dans l'avion, sur la route. Donc, ça va être assez difficile. Et ben ça fait qu'il y a beaucoup de blessés. Là, on a parlé de Slavkovski, Jake Evans, tu as mentionné Cole Caulfield. Jonathan Drouin, blessé au haut du corps, absence minimale jusqu'au match des étoiles, tout comme Joël Armia, lui aussi, jusqu'au match des étoiles. On parle de début février, c'est le 3-4, si je ne me trompe pas?
Le match des étoiles, oui, 3-4 février.
Exact. Et ben il y a aussi Jake Allen qui, lui, va peut-être revenir plus rapidement, on parle d'une semaine, on verra bien. Mais moi, j'ai une petite quote de Martin Saint-Louis, encore une fois, une citation de notre cher entraîneur des Canadiens de Montréal qui parle de la difficulté un peu de faire un alignement avec les options qui lui restent. On va continuer de parler de cette stratégie de, entre guillemets, tank, parce que c'est pas nécessairement d'obliger tes joueurs de perdre, c'est finalement de déboulonner pièce par pièce ton équipe pour te retrouver avec un club de niveau peut-être de la Ligue américaine, mais bref, on se laisse sur cette citation de Martin Saint-Louis.
Ce soir, on va jouer à 11 avant, 7 défenseurs, puis demain, c'est off, puis lundi, on va voir qu'est-ce qu'on a.
Donc, il fait avec ce qu'on a, comme on dit, puis on lui souhaite le meilleur, mais je pense que pour ceux qui sont amateurs de la stratégie du tank, où on va utiliser des termes en anglais parce que c'est beaucoup comme ça qu'on l'adresse, le rebuild, finalement, d'aller chercher des choix de repêchage, de prendre du temps, d'échanger des pièces pour construire une équipe. Puis c'est ça qui nous intéresse aussi à Tête de hockey, c'est de voir la façon dont cette transition-là va être faite du côté, bien évidemment, de Kent Hughes, le directeur général. C'est ce qui m'amène à le bilan qu'on veut faire cette semaine, toi et moi, Raphaël, parce que ça fait un an, presque jour pour jour, on est le 22, je crois qu'il est arrivé en poste le 18 ou le 19, là, je veux pas m'avancer, mais ça fait un an à peu près que Kent Hughes est arrivé en poste. Il y a aussi... Monsieur Gorton qui l'épaule, c'est comme une bête à deux têtes. Et Kent Hughes, quand il est arrivé en poste, c'est toi qui me l'as rappelé qu'il a engagé Martin Saint-Louis pour justement repartir la machine, recréer, essayer de refaire vivre des émotions aux partisans du Canadien, peut-être aller chercher une première Coupe Stanley depuis plus de 25 ans. J'ai le goût de te laisser faire finalement ce bilan-là de Kent Hughes parce que finalement, t'as listé certains, on va dire entre guillemets encore une fois, une expression anglaise, certains moves que t'as trouvé importants de la job de Kent Hughes depuis qu'il est en poste.
Absolument. Être directeur général, c'est pas un emploi qui est facile.
Non.
surtout pour une équipe qui est en reconstruction. Beaucoup de fil à retordre, beaucoup de décisions difficiles à prendre des fois.
Parce que c'est de prévoir l'avenir.
Exactement. Beaucoup de pression aussi. On se le cachera pas. Le marché à Montréal, c'est pas un marché qui est facile. Ouais. Mais bien honnêtement, je suis assez impressionné par Kent Hughes depuis son arrivée avec le CH. Je trouve qu'il y a une bonne vision. Je trouve que justement, la philosophie du tank puis du rebuild puis vraiment de repartir à zéro, c'est quelque chose qui a de l'air de vouloir implanter.
Ouais.
À Montréal, ça n'a pas toujours été facile. C'est la notion de dire oh, on n'a pas une équipe compétitive pendant quelques années, mais c'est pour le mieux.
Mm-hmm.
J'ai souvent eu l'impression qu'à Montréal, c'est de boucher des trous.
C'était pas assumé vraiment comme reconstruction.
Exactement.
Ça faisait en sorte qu'on était toujours, excuse-moi l'expression, mais sur la limite, sur les fesses de faire les séries parce que on avait de la misère à créer un club qui... On l'avait bâti sur Carey Price. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
C'est ça. Puis, je veux dire, la réalité, c'est que c'était pas nécessairement accepté par les fans non plus. Cette notion-là.
Parce qu'on voulait toujours faire les séries.
Exactement, mais ça l'aide pas nécessairement parce que tu bouches avec des trous, tu finis assez bas dans le classement pour faire les séries,
ouais.
Mais pas assez haut pour dire que t'as un choix qui a de l'impact.
Exact.
Donc, c'est vraiment un effet boule de neige qui peut rester, mais je pense que Kent Hughes, il veut vraiment prendre le temps de bien le faire.
Ben, justement, puis... il est arrivé, il a bougé d'une façon assez particulière. Toi, c'est quoi le premier move là, de Kent Hughes qui t'a impressionné?
Ben, le premier move d'impact vraiment qu'il a eu l'opportunité de faire, c'est au repêchage.
Oui.
Le dernier repêchage, le premier show au total à Montréal.
Le sens du spectacle, ce cher Kent Hughes.
Exactement, exactement. Pendant toute l'année dernière, le consensus numéro un, jusqu'à temps que ce soit le temps du championnat mondial et tout, c'était ouais. Shane Wright, le joueur de centre canadien. Mais Slafkovski, avec son tournoi mondial junior, avec le tournoi mondial au printemps, a fait changer la tendance un petit peu. On a vu que Slafkovski commençait à grimper les rangs. On voit un joueur qui est gros, qui est physique, qui patine.
Un ailier de 6 pieds 4.
Exactement.
C'est
impressionnant.
Dans
je veux dire, le kid, il a 18 ans, mais il a une shape d'un gars qui, ça fait 5-10 ans qu'il joue dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que c'est attirant pour un directeur général. Puis finalement, il y a eu des rumeurs que les entrevues de Wright avec le Canadien n'ont pas été nécessairement très bonnes.
Ben, c'est parce qu'il était trop confiant.
Je pense que ça fait partie de ça. Je pense que ça a été un bon morceau de humble pie, comme on dit à notre cher ami Shane Wright.
Un petit coup d'humilité.
Exactement. Mais Slafkovski, moi, personnellement, ça aurait été mon choix numéro un.
Ouais.
Je trouve que c'est un bon choix pour les Canadiens. Je trouve qu'il a été un petit peu amené trop rapidement dans la Ligue nationale, mais ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que je voyais avec Slafkovski? C'est un gars qui avait vraiment beaucoup de potentiel, mais que... T'sais, l'année passée, il n'a pas nécessairement dominé dans la Ligue pro en Finlande. Donc, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il arrive dans la Ligue nationale cette année, puis qu'il commence à dominer. C'est pas comme ça que ça marche habituellement. Puis, la réalité, c'est quand tu repêches un joueur, que ce soit premier au total ou 30e au total, tu repêches un joueur pour qu'est-ce qu'il va t'amener dans les prochaines années.
Pas comme tu l'as dit, il y a 18 ans.
Exactement. Pas qu'est-ce qu'il va t'amener à sa première saison dans la Ligue nationale.
On voit que ça chicote quand même le développement là, puis il y en a plusieurs à Montréal qui ont peur que ça fasse un deuxième Kotkaniemi. On le sait, lui qui avait été repêché troisième au total, là maintenant qui est plus avec les Canadiens, qui est rendu deuxième centre avec les Canes, c'est une carrière qui est intéressante à suivre. Mais on va rester sur Kent Hughes et ses moves. Donc tu parles du repêchage avec le choix de Slafkovski qui en a surpris plusieurs et ben comme on le disait en entrée de jeu, il y a le sens du spectacle. Pourquoi?
Deuxième move intéressant de Kent Hughes au repêchage l'année dernière. Dans le fond, on le savait, Montréal était dans le marché pour un joueur de centre.
Oui.
Montréal n'ont pas repêché Shane Wright, qui est un joueur de centre.
Voilà.
Ils sont allés avec l'ailier. Donc, Kent Hughes regarde ses options un petit peu. Puis, on voit un joueur de centre qui joue avec les Blackhawks de Chicago, qui a été repêché il y a quelques années, troisième au total, qui s'appelle Kirby Dach. Donc, une série d'échanges de Kent Hughes pour aller chercher Kirby Dach.
C'est impressionnant.
C'est assez impressionnant. Au repêchage, je le regardais en direct, puis c'était assez là, bing-bang, puis ça s'est fait très rapidement.
Ouais.
Donc, Montréal commence par échanger le défenseur russe Romanov et un choix de quatrième ronde pour un choix de première ronde, pour le choix de première ronde des Islanders, qui est le 13e au total.
Ouais. Donc là, on perd un joueur qui a plusieurs aimés à Montréal,
un
joueur
défenseur
physique qui se fait échanger aux Islanders de New York avec un choix de quatrième ronde pour recevoir le 13e choix. Mais Kent Hughes ne voulait pas repêcher 13e, il voulait, comme tu l'as dit, aller chercher un joueur de centre.
Exactement. Donc ensuite, avec ce choix de première ronde-là, le 13e au total, et un choix de troisième ronde, Kent Hughes va chercher Kirby Dach, le joueur de centre, qui jouait pour les Blackhawks de Chicago, comme j'ai mentionné. Kirby Dach, qui a une très bonne saison, selon moi, avec les Canadiens cette année. Je pense que c'est un Ça va être un bon joueur de centre de deuxième trio, exact. Un excellent joueur de centre de troisième trio,
ouais.
Mais je pense qu'il peut contribuer définitivement dans le top 6.
Ouais.
Donc, c'est super intéressant pour le Canadien.
Puis, c'est exactement ce genre de transaction-là qu'on fait dans une reconstruction, c'est d'additionner des choix pour aller chercher un joueur ou d'aller chercher un joueur, mais de l'échanger avec plusieurs choix pour justement avoir le plus de cartes pour après ça bâtir une équipe. Mais il y a une autre transaction que tu as trouvé vraiment intéressante, puis ça va faire une belle transition aussi pour parler finalement du prochain repêchage. On avait un défenseur qu'on aimait beaucoup, mais on savait qu'il pouvait intéresser d'autres équipes, surtout en séries éliminatoires. Donc Ben Sherratt qui s'est fait échanger.
Exactement, Ben Sherratt, défenseur défensif avec un petit fleur offensif, à la date limite des transactions l'année dernière. Les Panthers, on le sait, l'année passée, il y avait une excellente équipe.
Qui est allé chercher Claude Giroux aussi.
Exactement. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'aller chercher un autre défenseur top 4, de renforcer ta défensive. Les Panthers de la Floride, eux, dans leur tête, se disent « Ah, on a une bonne équipe, on risque d'avoir une bonne équipe l'année prochaine. Pourquoi pas échanger notre choix de première ronde? » Ça semble être une erreur.
Et là, moi, je trouve que ça fait un beau lien aussi avec le 13e choix que Kent Hughes a utilisé pour aller chercher Kirby Doc. Parce que là, on va aller en musique, mais au retour, un peu plus tard dans l'émission, dans la deuxième demi-heure, on va vous parler des prochains choix que s'offrent aux Canadiens et les Panthers qui n'ont pas la meilleure saison. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir combiner finalement leur choix avec un choix autour peut-être de 13e des Panthers. On l'espère qu'il peut être dans le top 10. On va tout vous éclaircir ça après une chanson que tu as choisie de notre cher Loud National sur son dernier album Aucune Promesse. C'est un hommage à un très bon joueur des Canadiens qui nous a laissé en 2022, qui est décédé. On fait référence à
Guy Lafleur, numéro 10.
On y va avec numéro 10 de Loud. Vous écoutez Tête de Hockey.
Yeah, je viens de là où les vagabonds mettent des bagues dans leur bas blanc. Mon anglais est joual, mon accent est grave, on rappe dans notre propre langue. Paraît que le rap français c'était pas pareil dans votre temps. Ouais, maintenant c'est notre temps, héros dans mon hometown. On t'amène faire le tour de l'île, dans mon aile c'est tout des journalistes. On a nos propres numéros 10, on rap la Guy Lafleur de Lys. Yeah, le cadran suisse donne l'art de l'Est. J'ai mis Montréal sur la liste, and that's why they call me hometown hero. J'parle en joual mais j'compte en euros. J'suis dans l'avion, c'est showtime. Les gars sont chauds, même l'autre bord, they know. Sold out venues, back then fallait qu'on saute dans le métro. Maintenant ils déroulent le tapis rouge dès qu'on rentre chez nous. Hometown hero, hometown hero, hometown hero. No doubt, they know. Parlant de l'or, comptant en euros. Hometown hero, hometown hero.
La passe et voilà, tir et la fleur est vue, Guy Lafleur. Eh ben ça va faire plaisir à la foule.
Yeah, je viens de là où les vandales faisaient des toiles sur les trains de nuit. Mon polo est Ralph, ma colo est froide, mon stade est olympique. Tout ce que ma ville a vu dans les années 90, Montréal made me, mais Montréal made it. Studied it all as a young kid. Cette année on finit la tournée à Dunkerque. On a resservi la rue pour les junkies. Il faudra paver la route pour les jeunes Kev. Yeah, ces temps-ci ma ville a des allures de Schwartz. Beaucoup de beef pour un peu de bread. And that's why they need us. Hometown hero. J'parle en joual mais j'compte en euros. J'suis dans l'avion, c'est showtime. Les gars sont chauds, même l'autre bord, they know. Sold out venues. Back then, fallait qu'on saute dans le métro. Maintenant ils déroulent le tapis rouge dès qu'on rentre chez nous. Hometown hero, hometown hero, hometown hero. No doubt, they know. Parlant de l'or, comptant en euros. Hometown hero, hometown hero.
Vous êtes de retour à Tête d'Hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Mon nom est Félix Duchesne. Je suis en compagnie de mon co-animateur Raphaël Côté-Rioux. On vous parle des nouvelles de la LNH. On vous a parlé un peu des Remparts qui ont gagné 5-2 contre l'Océanique de Rimouski. Et là, ben, on continue avec les manchettes des nouvelles de cette semaine du côté de la Ligue nationale. On en a parlé un peu en début d'émission de cette fin de semaine du match des Étoiles qui va avoir lieu le 3 et 4 février, comme à l'habitude. On va commencer le vendredi avec finalement le concours d'habileté qu'on a l'habitude de faire, entre autres le tir sur les tirs ciblés dans les quatre coins du filet. Il y a le concours de patins. Oui. T'es-tu capable de m'en nommer d'autres?
Il y a les échappés aussi là, qui sont toujours impressionnants.
Oui,
avec
c'est pas nécessairement d'avoir des habiletés, mais des fois, ça peut être un peu spectaculaire.
Ouais, exactement. Exemple, l'année passée, on a vu Trevor Zegras, on a vu Jack Hughes sortir un mini Jack Hughes de la boîte. C'est toujours très plaisant, cet événement-là au Match des Étoiles.
Et le lendemain, c'est finalement le vrai Match des Étoiles avec des joueurs qui ont été choisis. Avant d'aborder les chandails que ces joueurs-là vont porter lors de cette fin de semaine-là, je veux parler des joueurs qui ont été choisis. Explique-moi un peu le processus de sélection. Le public avait un droit de regard aussi sur des joueurs qui pouvaient s'ajouter. Comment ça fonctionnait? Ça a été finalement mis en place dans la dernière semaine et demie, si je ne me trompe pas.
Oui, absolument. Dans le fond, comment que ça fonctionne la sélection des joueurs pour le Match des Étoiles? C'est très simple. Un joueur par 32 équipes au départ. Donc, la Ligue nationale choisit un joueur pour les 32 équipes. Donc, on a un total de 32 joueurs pour débuter. Ensuite de ça, les alignements se complètent par un vote qui est fait par les fans. Ouais. Donc, sur Twitter, sur le site de la Ligue nationale, les gens pouvaient voter pour compléter les alignements.
J'ai voté. As-tu voté?
Oui, j'ai voté.
Ah oui?
Les alignements des quatre divisions pour compléter ces 10 alignements pour le Match des Étoiles.
Et là, du côté, je vais représenter le Canadien de Montréal. Nick Suzuki, qui a été sélectionné comme l'an passé, il était présent au Match des Étoiles à Las Vegas. Cette année, c'est en Floride. Mm-hmm. Du côté des Devils, c'était qui?
On a Jack Hughes, évidemment, le premier joueur choisi. Oui. Pas de joueur choisi dans les votes du public. Par contre, je crois que l'ailier Jesper Bratt et le défenseur de Guy Hamilton méritaient amplement d'être présents.
Oui. Nico Hischier aussi.
Oui, Nico Hischier aussi. Mais je pense vraiment que Bratt et Hamilton, surtout Hamilton, qui est dans les top défenseurs en termes des points. Dougie Hamilton. Donc, c'est ça, mais... T'sais, le Match des Étoiles, là, au bout de la ligne, c'est un
spectacle.
Exactement. Ça tient pas d'importance. Il n'y a pas de prix pour les équipes nécessairement au bout de la ligne qui a une importance sur le classement. C'est vraiment juste pour faire évoluer le jeu, si on veut faire
surtout,
évoluer la ligne.
C'est une pause aussi pour
exactement.
Ceux qui ne vont pas parce
exactement.
Que c'est une fin de semaine où il n'y a pas d'autres matchs. On met évidemment toute l'emphase sur ce spectacle-là.
Il n'y a pas de match toute la semaine. Donc c'est vraiment un bon moment pour les équipes de se reposer.
Ouais. Les joueurs
parfois,
blessés de revenir aussi.
Exactement. Puis parfois, on voit des joueurs qui se font sélectionner pour le Match des Étoiles qui décident de même pas y aller, de profiter du temps. Ça s'est vu dans les dernières années.
Okay.
Donc, c'est vraiment juste pour dire là, qu'on a du plaisir pendant une fin de semaine. Les meilleurs joueurs, ils sont ensemble, ils ont du plaisir sur la patinoire. Donc,
Et comme je l'ai dit, ça commence depuis une semaine et demie environ à se mettre en place, les joueurs qui sont choisis, le vote du public. On a eu aussi un dévoilement des chandails. On est en Floride.
Wow.
Et c'est un peu un genre de... ça fait référence aux années 90. C'est des couleurs assez flash. Si ça vous intéresse de le voir, soit allez sur le Instagram de NHL, mais encore mieux, allez suivre Tête au pluriel de hockey en un mot sur Instagram pour ne rien manquer de notre contenu. On l'a partagé et visuellement, c'est assez spécial. On a vraiment quelque chose de vintage, de rétro.
Moi, personnellement, j'adore. Pour être honnête.
Et moi, je déteste.
les chandails. Dans le fond, le marketing, si on veut, du Match des Étoiles, depuis le début là, de la promo pour le Match des Étoiles 2023, c'est basé autour de Miami Vice. Donc, le Match des Étoiles est en Floride, donc on y va avec Miami Vice. C'est beaucoup des couleurs pastel, c'est flash, c'est rétro.
Ouais.
Y a une petite touche de ça sur les chandails. Moi, j'aime beaucoup. Ça fait aussi référence au chandail du Match des Étoiles de 1994.
Mmh.
Ça, c'est intéressant. Donc, ça ajoute au look rétro, si on veut. Donc, ouais. Moi, personnellement, j'adore, mais je suis capable de comprendre qu'il y a des personnes que c'est pas nécessairement leur tasse de thé.
Ben, on a un turquoise avec un rose flash, puis du côté de l'ouest, ils seront en blanc. Du côté de l'est, évidemment, vu que ça se joue en Floride, ils seront en noir. On a le vieux logo de la LNH qui est comme en orange et noir. C'est vraiment vintage. On vous invite à aller voir ça. Et ben, répondez à notre story si ça vous tente, à tête d'hockey. Dites-nous si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas. On va pouvoir vous mentionner aussi en direct. Je pense que quand on s'en était parlé, t'as dit une fois que tu vas voir les joueurs sur la glace, ça devrait être beau.
Ah, je suis convaincu. Si on passe à une autre nouvelle, oui. On a eu des mauvaises nouvelles du côté de Max Pacioretty, le joueur d'attaque des Hurricanes de la Caroline.
Ça, c'est vraiment pas drôle.
Ouais, l'ancien du Canadien qui a manqué toute la saison jusqu'au 5 janvier, qui avait une blessure au talon d'Achille.
Je pense qu'on peut même parler de sa transaction qui l'a amené en Caroline, parce que on le sait, il a été échangé à Vegas par les Canadiens. On a eu tout qu'un retour avec Nick Suzuki, on a eu des choix de repêchage, mais là, Max Pacioretty qui a changé d'adresse, qui a été échangé par Vegas pour finalement se retrouver en Caroline C'est Raleigh. Raleigh, c'est en Caroline, le fact-checking. On y va direct avec Caroline du Sud, si je me trompe pas. Oui, justement, Max, Caroline du Nord, on s'excuse.
Mais oui, une blessure au talon d'Achille qui le dérangeait. Il n'a pas joué cette saison jusqu'au 5 janvier. Il a joué 4 matchs. Cinquième match de sa saison. Il se reblesse au talon d'Achille. Une séquence un petit peu bizarre.
Ouais.
Il est en arrière du filet. Il se bat pour une rondelle. Il s'en va pour prendre la rondelle. Il tourne un petit peu. Puis
changement
on voit
de direction mortelle.
Il arrête totalement. Tombe sur la glace. Les blessures au talon d'Achille, c'est tout le temps dangereux. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais la réalité, c'est que c'est peut-être la fin pour Max Pacioretty.
Tu penses ça?
Ça se peut très bien. Puis c'est ça que je lis. C'est triste parce que je pense que Max Pacioretty, il y en avait encore dans la tank, comme on dit. 3 buts en 5 matchs avec les Hurricanes cette année, c'est un bon pace. Donc on lui souhaite le meilleur, mais des blessures comme ça, ça peut être difficile. Ça l'affecte la vitesse de patin, ça l'affecte la balance, ça l'affecte plein de choses. Donc on garde un œil là-dessus, on souhaite un prompt rétablissement à Max Pacioretty.
Définitivement, on l'a connu à Montréal, c'est un joueur d'impact qui avait aussi été blessé durement à Montréal, il faut le rappeler, avec Zdeno Chara. Max Pacioretty, c'est pour ça qu'on a commencé à en parler en disant que c'était triste, parce qu'il n'y a pas la chance de son côté.
Non.
Évidemment, on en parlait quand on parlait des blessés du Canadien. Il y a une façon de jouer dans la Ligue nationale qu'il faut apprendre à se protéger, à ne pas se mettre dans des situations où on va être pris finalement à éviter un contact du mieux qu'on peut. Puis Max Pacioretty, il est malchanceux finalement face à cette vilaine, à son talon d'Achille, mais aussi commotion cérébrale probablement. Il y en a beaucoup à son dossier médical,
exactement.
C'est le cas de le dire. Je propose qu'on y aille en pause publicitaire. On va se laisser pour un petit 2 minutes. On a d'autres nouvelles à vous parler, entre autres la situation à Vancouver. Ça s'est fait aujourd'hui à Vancouver. Bruce Boudreau qui quitte, se fait remplacer. On va vous garder le suspense si vous ne savez pas la nouvelle. on se revoit dans à peu près 1 minute à Tête d'Hockey sur les ondes de chez 94.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons, monstre ou black, hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud!
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
De retour à tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3, Félix Duchesne en compagnie de Raphaël Côté-Rioux. À tous les dimanches de 7 à 8 heures, on vous parle de hockey, surtout sous les angles du Canadien et des Devils, mais pas que. On vous parle évidemment des Remparts. Je le rappelle qu'ils ont remporté une 37e victoire, 36. Ils ont gagné une autre fois contre l'Océanique de Rimouski. Ils sont au sommet de la LHJMQ. On va poursuivre avec les nouvelles, évidemment, du côté de la LNH. À Vancouver, c'est difficile cette année. On est dans le fond du classement total de la Ligue nationale. On espère peut-être avoir un cher Connor Bedard qui a dit, je me rappelle, je crois qu'il y a un an ou deux qui avait dit, j'aimerais peut-être jouer avec les Canucks de Vancouver.
Ben, c'est un Canadien qui vient de la Colombie-Britannique.
Ouais.
Qui vient de North Vancouver. Donc, ça serait un bon fit, je crois. Mais oui, en effet, ça brasse beaucoup à Vancouver. Surtout avec leur entraîneur-chef ou maintenant ex-entraîneur-chef, ouais. Bruce Boudreau. C'est une histoire qui commence l'année passée.
Mais
presque
je pense qu'avant,
un an,
je pense qu'il faut dire la nouvelle.
Ouais.
Bruce Boudreau qui a perdu son poste.
Ouais.
Il se fait remplacer par un certain Rick Tocchet.
Oui.
Qui était un panéliste à TNT, une chaîne assez récente qui diffuse des matchs. On a entre autres Wayne Gretzky aussi sur les panélistes. C'est vraiment intéressant quand c'est une soirée TNT. Mais le Rick Tocchet qui revient dans l'arène du hockey derrière le banc des Canucks de Vancouver. Mais là, ça fait, j'ai vu la statistique, dans les 10 dernières années, il y a eu 8 personnes qui ont occupé le poste d'entraîneur-chef à Vancouver. Explique-moi, qu'est-ce qui va mal? Là? On est en reconstruction, on fait une transition, qu'est-ce qui se passe?
Honnêtement, c'est une bonne question. Je pense que le groupe de propriétaires à Vancouver, c'est pas nécessairement le top, la crème de la crème, si on veut. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes de ce côté-là, mais la façon que ça s'est un peu déroulé avec Bruce Boudreau. Moi, je trouve ça absolument inacceptable pour une organisation professionnelle de ce niveau-là. Je vais
si vous le connaissez pas,
toi.
Bruce Boudreau, il faut le présenter. Mm-hmm. Un coach, c'est un vétéran de la Ligue nationale. Il a été coach, entre autres, pour les Capitals de Washington.
Pendant très longtemps.
Je ferai pas tout son CV, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de métiers derrière la cravate. Et comme tu le dis, c'est un peu particulier le traitement qu'il y a eu. Je te laisse faire l'historique.
C'est un entraîneur qui est extrêmement respecté aussi autour de la Ligue nationale.
Ouais.
En gros, Bruce Boudreau s'est fait engager par les Canucks de Vancouver le 5 décembre 2021. Donc, comme je disais, un petit peu plus qu'il y a un an.
Ouais.
Mais lorsqu'il s'est fait engager par le groupe de propriétaires, les Canucks n'avaient pas encore de directeur général.
Ouais.
Habituellement, c'est l'inverse qui se passe.
Un peu comme à Montréal.
Exactement. Habituellement, on engage le directeur général et le directeur général s'occupe de sa propre équipe.
Ouais.
Choisit son entraîneur, choisit les entraîneurs adjoints,
choisit
etc.
Choisit les joueurs, évidemment.
Exactement. Donc, Bruce est engagé le 5 décembre. Jim Rutherford, qui est l'ancien directeur général des Penguins de Pittsburgh et des Hurricanes de la Caroline aussi à l'époque, se fait engager le 9 décembre, donc moins d'une semaine après l'embauche de Bruce Boudreau au titre d'entraîneur-chef. Donc là, Rutherford est directeur général, mais la réalité, c'est que Jim Rutherford n'a jamais vraiment voulu Bruce Boudreau comme entraîneur-chef
donc
de son
là,
équipe.
On comprend qu'il y a un malaise.
Exactement. Dès le départ, il y a un problème.
Ouais.
Ça a mal été fait depuis le départ. Puis, les Canucks, ça n'allait pas bien cet automne. Jim Rutherford a fait quelques entrevues à la radio où il mentionne qu'il n'aime pas vraiment la structure du jeu des Canucks, qu'il n'aime pas les systèmes de jeu.
Et ça a fait jaser.
Exactement. Puis ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur-chef. Donc, on voit ça un petit peu comme des...
Des
flèches qui sont lancées à l'entraîneur-chef. Donc là, les rumeurs commencent à circuler. Puis, il y a un leak. Il y a une fuite qui se passe à l'interne aux Canucks que les Canucks aimeraient avoir Rick Tocchet comme entraîneur-chef.
Qui est Rick Tocchet?
Rick Tocchet, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale qui a joué pendant très longtemps, mais qui a aussi été entraîneur-chef et assistant dans la Ligue nationale.
Entre autres pour le Lightning,
pour les Coyotes de l'Arizona. En 2020-2021, il était entraîneur-chef.
Donc là, Rick Tocchet est le candidat pour remplacer Bruce Boudreau.
Exactement.
Mais, comme on l'a dit, est panéliste dans une émission l'émission de finalement un broadcast, comme ils appellent aux États-Unis. Il anime la diffusion de, entre autres, des discussions d'entre périodes. Et il y a une clause dans son contrat qui dit
exactement.
Tu dois nous avertir 4 semaines avant, si tu veux, peut-être retourner dans la ligue, on ne sait pas.
Exactement. Il y a une clause dans son contrat qui stipule qu'il ne peut pas quitter son emploi juste comme ça. Il faut qu'il reste en pause pendant 4 semaines.
Ouais.
C'est comprenable, mais là, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que les rumeurs circulent encore plus. On s'attend à ce que Bruce Boudreau se fasse mettre dehors. Lui
donc là,
aussi.
Durant 4 semaines, Bruce Boudreau le sait qu'il va perdre son poste, mais il est en... Parce que, comme on s'en était jasé, les Canucks auraient pu décider de mettre un entraîneur par intérim, sachant que Bruce Boudreau était comme en deux chaises.
Absolument. Puis les deux des entraîneurs adjoints qui étaient avec les Canucks pendant toute cette situation-là, Mike Yeo et Jason York, ont même pas été congédiés par l'équipe. Donc c'est quoi, pourquoi ne pas prendre un de ces deux entraîneurs adjoints-là, les mettre comme entraîneurs par intérim, mettre Boudreau dehors, éviter tout ce fiasco-là avec les médias, avec les fans, avec même lui, on voit Boudreau qui, dans la dernière semaine, émotif en arrière du banc parce qu'il sait que la fin approche puis que c'est peut-être sa dernière opportunité d'être entraîneur dans la Ligue. Donc, c'était très difficile à voir.
Il y a eu un beau moment, un support vraiment de la part des partisans qui ont chanté son nom, puis Boudreau qui se cache le visage là, parce qu'il est tout rouge. Puis...
Bruce, there it is. Non, j'ai vraiment apprécié le support des fans des Canucks dans toute cette situation-là.
Mais là, c'est fini.
C'est terminé. Les Canucks sont engagés. Rick Tocchet à titre d'entraîneur-chef.
Mais
avec...
c'est pas juste ça. Il y a des nouveaux qui vont peut-être changer la donne.
Des anciens joueurs qui sont amenés comme entraîneur adjoint.
Ouais.
On parle d'Adam Foote, l'ancien défenseur qui a joué pour l'Avalanche du Colorado.
Ben oui.
Et puis, on parle aussi de Sergei Gonchar, le défenseur russe qui a gagné la Coupe Stanley
avec
les Penguins de Pittsburgh.
Qui a joué beaucoup avec
notamment.
Les Penguins.
Donc, c'est ça. Un changement de garde pour les Canucks de Vancouver, mais c'est une situation qui aurait jamais dû arriver de cette façon-là. Un gros manque de professionnalisme, selon moi, de la part des Canucks.
J'aurais le goût de conclure ce segment sur les Canucks, non pas en parlant des joueurs qui vont échanger, parce qu'ils ont beaucoup de cartes d'ici la date limite, entre autres Bo Horvat, leur capitaine, leur premier centre, qui devrait changer d'adresse imminemment. Mais je veux qu'on parle de Bruce Boudreau. Le vois-tu peut-être occuper un poste d'entraîneur-chef ou d'entraîneur adjoint ailleurs dans la Ligue nationale?
Absolument. C'est un entraîneur qui a eu beaucoup de succès dans la Ligue nationale overall sur sa carrière. Moi, je serais pas surpris du tout de le voir derrière, encore une fois, derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale prochainement quand il y aura un congédiement ou quoi que ce soit.
Ben, on va maintenant prendre une pause musique avec Mac Miller et la chanson Blue World, parce que on file peut-être un peu mollo après avoir parlé de notre cher Bruce. Moi, je l'aime quand même, Bruce Boudreau.
C'est un bon personnage.
Il a de l'allure, puis il s'est fait faire quelque chose de pas très gentil à Vancouver. Vous écoutez Tête de Hockey. Au retour, on vous parle des 3 étoiles de la semaine. On veut vous parler aussi d'un outil qui nous sert, entre autres, pour simuler la loterie du prochain choix au repêchage. Et si le temps ne file pas trop vite, on va peut-être vous parler d'un top 5 de... on garde ça pour la fin.
Surprise.
On garde ça en surprise. On y va avec Blue World de Mac Miller. Vous écoutez Tête de Hockey à Chiz 94.3.
Might just turn around, do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. It's the devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
Yeah, okay, cool as fall weather. Fuck the bullshit, I'm here to make it all better with a little music for you. I don't do enough for you. Without you, it's the color blue. Oh, long trip. I was in the city, they was talking that shit. Had the homies with me, all of a sudden they split. We ain't even worried, we just laughing, that's rich. You know how it goes, it ain't broke, don't fix.
Hey, one of these days, we'll all get by. Don't be afraid, don't fall.
Think I lost my mind. Reality so hard to find. When the devil trying to call your line, shit, I always shine. Even when it light them. No, I ain't God, but I'm feeling just like him. Oh, don't trip. See, I was in the whip riding me and my bitch. We was listening to us, no one else, that's it. That's a flex, just a bit. Let me talk my shit, say my head got bit. Yeah, well, listen, man, world made me crazy. Might just turn around the 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Might just turn around to 180. I ain't politicking, I ain't kissing no babies. The devil on my doorstep being so shady. Don't trip, we don't gotta let him in. Don't trip. Hey, yeah. I let it go, but I never go with it.
De retour à Tête de hockey et ben on va quand même enchaîner les prochains sujets parce qu'on veut vous parler de beaucoup, beaucoup de choses, entre autres peut-être un top 5 qu'on vous a promis la semaine dernière. On va commencer ça avec les 3 étoiles de la semaine, si tu le veux bien, Raphaël. Mais là, il y a une précision à faire avec finalement ces 3 joueurs que tu veux nous parler.
Ouais, exactement. Dans le fond, les 3 étoiles de la semaine qu'on vous présente cette semaine, c'est les étoiles du 9 au 15 janvier.
Ouais.
Dans le fond, la Ligue nationale sort ses 3 étoiles de la semaine le lundi après la semaine.
Et nous,
des trois étoiles.
Une,
et nous, notre émission, c'est le dimanche.
On a une obligation de diffusion.
Exactement.
Le dimanche soir.
Exactement. Donc, les 3 étoiles qu'on vous présente, c'est pas les 3 étoiles de la semaine qui vient juste de passer, mais l'autre d'avant,
ouais.
Puisqu'on prend les 3 étoiles que la Ligue nationale sorte les lundis.
Et je profite en même temps de ce moment pour vous rappeler que lundi, demain, on va partager en story ces 3
oui.
étoiles de la semaine
Exactement.
Qui vient de passer. Donc, si vous nous écoutez et que vous voulez savoir ceux de cette semaine, ce sera disponible demain sur notre page Instagram. C'est Tête au pluriel de hockey. En un mot, voilà tout. Tu peux commencer avec la 3e étoile.
Yes. La 3e étoile de la semaine du 9 au 15 janvier, c'est un joueur qu'on connaît assez bien.
Oui, on l'aime pas beaucoup à Montréal.
L'ailier du Lightning et Tampa Bay, Nikita Kucherov,
ouais.
Qui a eu son mot à dire sur la victoire de la Coupe Stanley du Lightning contre les Canadiens il y a 2 ans.
Oui.
Donc, complète la semaine avec 4 buts et 4 passes, donc 7 points en 3 parties.
C'est très bon.
8 points en 3 parties, pardon, pour le Lightning, c'est excellent.
Ouais.
On passe à la 2e étoile. On parle de Lucas Raymond, le Suédois, le choix, le 4e choix au total des Red Wings de Détroit en 2020,
ouais.
qui a eu une excellente saison recrue l'année ouais. dernière.
Qui est en compétition finalement avec son propre défenseur, Moritz Seider, qui lui
Exactement.
Est parti finalement avec le Calder. Mais Lucas Raymond, comme tu le dis, a eu une très bonne saison cette semaine, durant la semaine du 9 au 15 janvier, en 3 parties. Lui aussi a eu 7 points, mais c'est 3 buts. Et en fait, Kucherov a eu 8 points et Raymond 7, donc 3 buts, 4 passes. Raymond qui a eu un départ assez lent. Évidemment, on a une expression en anglais qui s'appelle le sophomore year, si je me trompe pas.
Le sophomore slump.
Voilà. On pourrait traduire ça finalement par le finalement, c'est un genre de chute
chute de deuxième année.
De deuxième année.
C'est quelque chose qu'on remarque souvent avec les joueurs de deuxième saison. Souvent, les joueurs rentrent dans la Ligue nationale, ils ont une très bonne première saison.
Ils sont motivés.
La deuxième saison est un peu plus difficile. Ouais. On sait pas pourquoi. Ça l'arrive, c'est quelque chose qui est très vrai. Ouais. Mais habituellement, les bons joueurs s'en sortent sans problème. Mais oui, Lucas Raymond qui a eu un départ assez lent avec seulement 16 points dans ses 29 premiers matchs cette saison. Mais là, dans ses 14 derniers matchs, il est à 1 point par match. Il est à 14 points dans ses 14 derniers matchs. Donc, on voit là, qu'il commence à reprendre la cadence un petit peu, puis que ça commence à mieux aller pour lui.
Parce qu'il est supposé d'être dans les joueurs dominants de Détroit, si tu es d'accord avec moi.
Absolument.
Et on y va avec... j'ai le goût de le présenter parce que c'est un club qui a eu beaucoup de difficultés à sa première année. C'est l'équipe d'expansion, le Kraken de Seattle et sont allés chercher le gardien Martin Jones et du 9 au 15 janvier il y a eu 3 matchs parfaits, donc 3 victoires, 0 défaite, avec une moyenne de buts alloués d'environ 1,67, qui fait en sorte que il est un très bon gardien, un pourcentage d'arrêt de 933 et il y a aussi eu 2 blanchissages.
Sur ces 3 victoires, 2 étaient des blanchissages. Donc ça, c'est assez impressionnant. Martin Jones n'a pas une saison nécessairement tant solide que ça, cette saison.
Ouais.
Overall, mais la dernière semaine est très prometteuse là, pour Martin Jones. Le Kraken, en général, va très bien dernièrement. C'est une équipe qu'on voyait pas nécessairement où ils sont, mais ça va très bien pour eux. Cependant, on peut attribuer ça un petit peu à de la bonne chance pour le Kraken.
Jusqu'à dire ça.
Absolument. le Kraken a le plus gros pourcentage de lancers dans la Ligue. Il lance pour 12,33% présentement. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que sur 100 lancers que le Kraken font, ils vont compter 12,33 fois. Ouais. Habituellement, un pourcentage de lancers, c'est plus bas que ça. Puis aussi, on remarque qu'ils ont le plus grand nombre de buts au-dessus des prévisions. Ça, c'est une métrique, une analytique qu'on pourra parler dans les prochaines semaines.
Ouais.
Mais en gros, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le Kraken ont compté 25,44 buts de plus
que ce qui était prévu.
Avec les chances qu'ils ont sur la glace.
Ouais.
Donc, une équipe qui compte 25,44 buts de plus que qu'est-ce qui est prévu, ça veut dire que quand on prend toutes les lancers, la distance des lancers, les opportunités,
les équipes contre
qui ils jouent, on met ça ensemble, on est capable de voir, selon la qualité des lancers, combien de buts devraient être marqués avec ces efforts-là. Puis là, le Kraken ont 25 buts de plus que qu'est-ce qui est prévu. Donc, on peut attribuer ça à de la chance, mais je pense quand même que le Kraken ont une équipe assez balancée qui pourrait... potentiellement surprendre quelques personnes là, d'ici la fin de la saison.
On parle alors d'une surproduction, ce qui est arrivé un peu avec quelques joueurs du Canadien, les gardiens de but aussi qui ont très bien performé. Et là, c'est tranquillement en train de se remettre en place. On en parlait au début de l'émission avec un club qui commence à perdre de ses atouts là, avec Cole Caulfield, Slavkovski. Et la liste est longue, donc on va s'arrêter ici. Pour terminer l'émission, j'ai envie qu'on parle très brièvement... On l'a promis, donc on va le faire. Le top 5 des gardiens québécois, parce que aussi, il faut mentionner qu'on a seulement choisi le hockey moderne, donc à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est un article que je trouvais intéressant qui est sorti en 2021 qui mentionnait le déclin des gardiens de but québécois. On en a eu plusieurs quand on créait ce top 5-là. On a nommé, entre autres, Roberto Luongo, il y a eu Daniel Bouchard avec les Nordique. Il y a eu bien évidemment Martin Brodeur, on peut penser à Marc-André Fleury, à Patrick Roy, et on n'en voit plus autant des gardiens de but comme ça. Dans l'article, ça mentionne aussi, entre autres, qu'il y avait vraiment, avec François Allaire et avec Patrick Roy, au Forum, un genre de laboratoire pour spécialiser les gardiens de but. Et il y a eu le style papillon, entre autres, qui a été beaucoup développé avec François Allaire, qui est entraîneur des gardiens, qui est un peu, finalement, le créateur de ce métier-là. Et on pourra, entre autres, aussi continuer de parler des gardiens de but québécois. Mais là, on veut faire le top 5 du hockey moderne. Je te laisse les décrire. On pourra en parler plus en détail.
Je tiens à dire... disclaimer, c'est mon opinion.
Oui.
C'est comment moi je le perçois.
Ouais.
Je le sais qu'il y a des controverses avec les meilleurs gardiens de but. Des fois, il y a des arguments pour, des arguments contre.
Ouais.
Je trouve que c'est un débat intéressant. Donc, moi, en cinquième position, J'en ai mis deux. Okay. Parce que j'ai vraiment de la difficulté à faire le choix entre Jean-Sébastien Giguère et José Théodore.
Ouais.
C'est deux gardiens de but qui ont été performants.
Quoique Théodore n'a pas gagné de Coupe Stanley, Giguère.
Giguère
oui.
non plus. Giguère en 2007, oui, pardon. Fait que ça, c'est sûr qu'on le prend. Giguère a aussi gagné en le Conn Smythe, qui est le trophée donné aux joueurs par excellence des séries, en 2003,
exact.
Contre les Devils. C'est une
t'en
des.
Rappelle.
Je m'en rappelle. C'est une des rares fois que l'équipe perdante, joueur de l'équipe perdante, reçoit le Conn Smythe. Selon moi, ça aurait probablement dû être Martin Brodeur, qu'on va revoir dans notre top 5.
Ouais.
Mais Jean-Sébastien Giguère avait eu des séries assez impressionnantes. Là, on parle d'un pourcentage d'arrêt de 945 et puis d'une moyenne de buts alloués de 1,62. C'est pour ça qu'il est placé au cinquième rang.
Pourquoi Théodore, alors?
José Théodore, c'est parce qu'il y a eu une saison très dominante. Puis en fait, quelques saisons très dominantes avec Montréal. Puis, il a aussi remporté le trophée Vezina en 2001-2002. Pour le trophée pour le meilleur gardien et le trophée Hart dans la même année qui est remis aux joueurs par excellence dans l'entièreté de la Ligue nationale.
Ah oui!
Donc ça, c'est impressionnant. Donc c'est pour ça que j'avais de la difficulté à les placer, à les séparer. Je trouve que c'est deux CV, si on veut, qui se ressemblent beaucoup pour les deux.
Ouais.
Au numéro 4, j'ai Roberto Luongo, le gardien de but, qui a commencé sa carrière, qui a été repêché par... Félix, si je te fais un petit quiz.
Oui, qui a été repêché. Roberto Luongo, c'est pas un joueur des Sabres ou peut-être... je sais qu'il a joué beaucoup en Floride, il a joué beaucoup à Vancouver, mais où il a été repêché, je donne ma langue au chat.
Luongo a été repêché quatrième au total par les Islanders de New York.
Ah ben.
En 1997, il a joué moins d'une trentaine de parties pour les Islanders avant de se faire échanger aux Panthers, où il a joué pendant cinq saisons avant de se retrouver à Vancouver pendant un bon bout de temps. Il a d'ailleurs fait la finale de la Coupe Stanley en 2011 contre les Blues de Boston. Pour ensuite finir sa carrière avec les Panthers.
Revenir à la maison.
Exactement. C'est un gardien qui a été présent aux Olympiques pour le Canada, qui est très bien classé en ce qui a trait aux victoires pour les gardiens de but. Donc, il se devait une place là au quatrième rang dans mon classement.
Exactement. Au top 3, finalement, je suis vraiment d'accord avec le top 5. Donc, c'est pas notre top 5, mais dans le top 5 que tu as créé, c'est le seul gardien qui est encore actif dans la Ligue nationale.
Luongo?
Non.
Le numéro 3.
Oui, c'est
exactement.
Ça.
Oui, on parle de Marc-André Fleury, qui joue pour le Wild du Minnesota, mais qui a eu les meilleurs moments de sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh,
évidemment.
Où il a remporté 3 Coupes Stanley. Un excellent gardien de but qui a été repêché premier au total en 2003.
Et on en parlait hors onde que Fleury a entamé la reconstruction du côté des Pingouins. Après ça, il y a eu Sidney Crosby, il y a eu Evgeny Malkin, mais tout a commencé avec Marc-André Fleury.
Absolument.
En tout cas, c'était une des pièces fondatrices de cette reconstruction.
Ben absolument. On regarde le repêchage de 2003. Ça a été Marc-André Fleury qui est sorti premier.
Ouais.
On regarde le repêchage de 2005, Sidney Crosby. Ensuite de ça, en 2006, les Pingouins ont repêché Evgeny Malkin. Donc, c'est une fondation assez solide pour reconstruire. Mais oui, Marc-André Fleury avec 3 Coupes Stanley, une en 2008-2009 et puis en 2015-2016 et 2016-2017 quand les Pingouins de Pittsburgh avaient gagné 2 années d'affilée.
Ouais.
Donc, un excellent gardien de but qui mérite définitivement d'être dans le top 5.
Voilà, le deuxième, c'est un de mes préférés. On en a parlé parce qu'il y a eu sa 500e victoire derrière le banc des Remparts, c'est le cher Patrick Roy, le numéro 33.
Exactement, puis c'est là que ça commence à être controversé, puis je peux pas mentir, je suis un petit peu biaisé face à ça à cause de mon amour pour les Devils.
Parce que qui s'est retrouvé au numéro 1?
On parle de Martin Brodeur, bien
voilà.
Évidemment. Patrick Roy, numéro 2, excellent gardien de but qui a mené les Canadiens à une Coupe Stanley, et puis l'Avalanche du Colorado aussi en 2001. Contre les Devils. Un excellent gardien de but, mais selon moi, le meilleur gardien de but québécois, c'est Martin Brodeur. Pour plusieurs raisons.
Ben, les stats
le prouvent. Le gardien de but avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue nationale, le plus de blanchissage dans la Ligue nationale aussi. Ouais. Mais non seulement ça, Martin Brodeur a une règle qui a été inventée à cause de lui. Ouais. On parle du trapezoid, si on veut. Quand vous regardez une patinoire de hockey, les deux petites lignes en arrière du filet, c'est...
Ben, le trapèze, en français.
Exactement. C'est une zone qui est délimitée pour pas que les gardiens de but puissent jouer la rondelle en dehors de cette zone-là.
Exact.
La raison pour ça, c'est que Martin Brodeur, c'est... sans aucun doute, le gardien de but qui maniait le mieux la rondelle.
Et qui a compté le plus de buts.
Oui, aussi 3 buts dans sa carrière. Donc, la raison pour ça, c'est que qu'est-ce que ça faisait? C'est que quand l'équipe adverse arrivait avec la rondelle, dégageait la rondelle en arrière du filet, Martin Brodeur, lui, sortait son filet, faisait une passe et le jeu repartait. Donc, ça causait beaucoup de défense.
On a voulu un peu le limiter dans ses mouvements.
Mais Martin Brodeur a joué en avant des bonnes défensives, mais la réalité, c'est que les offensives des Devils, c'était pas excellent. Puis, dans ce temps-là, t'as moins de marge de manœuvre. Faut que tu sois plus solide. Mais les stats le prouvent, les règles le prouvent, et je pense que le CV le prouve. Donc, Martin Brodeur, le meilleur gardien de but québécois de tous les temps.
On fait donc un retour sur le top 5. C'est une égalité au 5e rang avec Jean-Sébastien Giguère et José Théodore, 4e Roberto Luongo, 3e Marc-André Fleury, 2e Patrick Roy et au tout premier rang, c'est le cher Martin Brodeur. Ça a passé vite cette semaine.
Ouais.
C'est déjà le temps de se dire à la semaine prochaine. On a plein d'idées à vous proposer pour la semaine prochaine. Entre autres, vous parler du nouvel outil Tankathon qu'on veut vous mentionner. Parler des choix des Canadiens s'ils n'obtiennent pas le premier choix.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire?
On a une petite liste, ça va être intéressant.
Sinon, est-ce qu'il y a des choses que tu regardes cette semaine? Est-ce que ça va être la pause là, tranquillement qui va se mettre en place pour le match des étoiles?
La date limite, les rumeurs d'échange aussi, Timo Meier, Bo Horvat, il y a beaucoup de noms qui circulent, donc on garde l'œil là-dessus.
On va garder l'œil là-dessus et on vous invite encore une fois à aller nous suivre sur Instagram, tête au pluriel de hockey, pour ne rien manquer, entre autres, du top 3 qui va sortir demain matin et des joueurs aussi ajoutés dans votre pool. Donc, sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
The following program is a disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.